7. Le temps que Roland clait à nouveau dans son champ visuel, Brian Smith était sorti de son chariot à moteur. Il s'était assis sur le mur de pierre, sa canne posée sur les genoux. Roland n'avait aucun moyen de savoir si cette canne était une supercherie ou si l'homme en avait réellement besoin, et d'ailleurs il s'en moquait. King avait vaguement repris conscience, et les deux hommes discutaient.
« Je vous en prie, dites-moi que c'est seulement foulé, »
disait l'écrivain d'une voix faible et inquiète.
« Non, je dirais que vous avez la jambe cassée en 6, peut-être même 7 morceaux. »
Maintenant qu'il avait eu le temps de se poser un peu et peut-être même d'inventer une histoire, Brian Smith n'avait pas seulement l'air calme, mais presque joyeux.
« Remontez-moi le moral, ne vous gênez pas, »
lança King. La partie visible de son visage était très pâle, mais le filet de sang coulant de sa blessure à la tempe s'était presque arrêté.
Vous auriez une cigarette ?
Non, répondit Smith sur ce même ton étrangement joyeux. J'ai arrêté.
Bien que pas particulièrement doué pour le Shining, Roland l'était assez pour savoir que c'était un mensonge. Mais Smith n'en avait que 3 et il ne voulait pas les partager avec cet homme qui pouvait sans doute s'offrir assez de cigarettes pour remplir tout le camion.
En plus, se dit Smith. « En plus, les gens qui ont eu un accident sont pas censés fumer, »
fit-il d'un air docte. King hocha la tête.
« Mal à respirer, moi.
Il y a peut-être aussi une côte ou deux. Je m'appelle Brian Smith, c'est moi qui vous ai renversé, désolé. »
Il tendit la main et, chose incroyable, King la serra.
« Ça m'était jamais arrivé un truc pareil. » reprit Smith. J'avais même jamais eu un seul PV.
Peut-être King eut-il conscience de l'énormité de ce mensonge, mais il choisit de ne pas faire de commentaires. Il avait autre chose en tête.
Monsieur Smith, Brian, est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ici?
Au milieu des arbres, Roland se raidit. Smith eut réellement l'air d'y réfléchir. Il farfouilla dans sa poche, en sortit une barre Mars et entreprit de la déballer, puis il secoua la tête.
« Rien que vous et moi. Mais j'ai appelé les secours, l'ambulance et les pompiers à l'épicerie, et ils ont dit qu'ils avaient quelqu'un tout près, qu'ils seraient là au plus vite. Vous inquiétez pas. »«
Vous savez qui je suis ?»«
Pour sûr que je sais !»
fit Brian Smith en gloussant. Il prit une bouchée de sa friandise et poursuivit, tout en mâchant.
« Je vous ai tout de suite reconnu. J'ai vu tous vos films. Mon préféré, c'est celui avec le Saint-Bernard. C'était quoi déjà le nom du chien ?»«
Cujo »,
précisa King. C'était un mot que Roland connaissait, qu'il avait parfois entendu dans la bouche de Suzanne, alors qu'ils étaient seuls. À Méris, Cujo signifiait « gentil.
Ouais, c'était génial. Ça foutait trop les jetons. Je suis bien content que le petit gars s'en soit tiré.
Dans le livre, il meurt.
Puis King ferma les yeux et se rallongea dans l'attente. Smith reprit une bouchée de son Mars énorme cette fois-ci.
Et j'ai bien aimé l'adaptation télé avec le clown aussi. Trop cool.
King ne répondit rien. Il gardait les yeux fermés, mais Roland trouva que le mouvement profond et régulier de sa poitrine était bon signe. Très bon signe. Puis un camion arriva vers eux en vrombissant et s'arrêta en faisant un écart. Le nouveau chariot à moteur était environ de la taille d'un bucat funéraire, mais orange au lieu de noir, et bardé de loupiottes clignotantes. Roland ne fut pas mécontent de le voir rouler sur les traces du camion de l'épicier avant de s'arrêter. Roland s'attendait presque à en voir surgir un robot, mais c'est un homme qui sortit du bucat. Il alla fouiller à l'arrière et en extirpa une trousse de chirurgien. S'étant assuré que tout irait bien de ce côté-ci, Roland te retourna auprès de Jake, se déplaçant de nouveau avec toute sa grâce inconsciente. Pas une brindille ne craqua, pas un oiseau surpris ne s'envola. 8. Seriez-vous étonné, après tout ce que nous avons vu ensemble et tous les secrets qui nous ont été révélés, d'apprendre qu'à 5h15 de l'après-midi, Madame Tassenbaum alla garer le vieux camion de Chip McAvoy dans l'allée d'arrivée d'une maison que nous avons déjà visitée? Probablement pas, car le cas est une roue, et tout ce qu'il sait faire, c'est tourner. Au cours de notre dernière visite, ici, en 1977, la maison, comme le hangar à bateaux sur les rives du lac Keewaadin, était peint en blanc, bordé de vert. Les Tassenbaum, qui avaient acheté la propriété en 1994, avaient peint le tout dans des tons crème très harmonieux. Pas de rebord coloré. Pour Irène Tassenbaum, le rebord, c'était bon pour les gens qui n'arrivent pas à se décider. Ils ont aussi ajouté un panneau « coucher de soleil » sur un poteau au début de l'allée, et pour l'administration, ça fait partie de leur adresse postale. Mais pour les gens du coin, la maison au sud du lac Keewaadin restera toujours chez le vieux John Callum. Elle gara le camion à côté de sa Benz rouge sombre et pénétra dans la maison, répétant intérieurement ce qu'elle raconterait à David pour expliquer qu'elle était arrivée dans le pick-up de l'épicier du coin. Mais coucher de soleil résonnait de ce bourdonnement si caractéristique des maisons vides. Elle le reconnut immédiatement. Elle était rentrée dans bon nombre d'endroits vides déjà. Des appartements au début, puis des maisons de plus en plus grandes avec le temps. Non pas que David ait eu pour habitude d'aller boire ou courir le jupon, juste si elle, non. Non. Lui et ses amis se retrouvaient en général dans le garage de l'un ou de l'autre, dans une cave ou un entrepôt quelconque, à boire du vin bon marché et de la bière au litre, à inventer Internet et tous les logiciels nécessaires à son bon fonctionnement et au confort de l'usager. Les profits, même si nombreux sont ceux qui ne le croiraient pas, n'avaient été qu'un effet secondaire. Le silence qui accueillait souvent leurs femmes à la maison en était un autre. Au bout d'un moment, le bourdonnement de ce silence finissait par vous taper sur les nerfs et il vous rendait dingue, même... Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle était ravie d'avoir la maison rien qu'à elle. « Est-ce que tu coucheras avec le shérif Dillon s'il veut de toi ?» Voilà une question à laquelle elle n'avait même pas à réfléchir. La réponse était oui. Elle coucherait avec lui s'il voulait d'elle, par le côté, par derrière, en levrette ou bien carrément à la sauvage, si ça pouvait lui faire plaisir. Mais il ne voudrait pas. Même s'il n'avait pas porté le deuil de son jeune Sai, fils, ami, il ne voudrait pas coucher avec elle, elle et ses rides, ses cheveux grisonnants aux racines, sa bouée autour de la taille que ses vêtements de créateur ne parvenaient à dissimuler qu'imparfaitement. L'idée même était ridicule. Mais oui, s'il voulait d'elle, elle était d'accord. Elle regarda sur le réfrigérateur et là, tenue par un des aimants, « Nous, Positronics, nous construisons l'avenir circuit après circuit, » disait celui-là. Elle trouva un petit mot. « Ri, tu voulais que je me détende? Eh bien, je me détends. Non, mais, à savoir, je suis parti pêcher avec Sonny Emerson de l'autre côté du lac, pour sûr, pour sûr. » Serait rentré avant 7h, sauf si les insectes sont trop méchants. Si je ramène une perche, tu voudras bien la nettoyer et la préparer? D. PS, il se passe quelque chose à l'épicerie. Ils ont rameuté 3 voitures de police. Des entrants, peut-être bien. Si tu as des infos, tiens-moi au courant. Elle lui avait dit qu'elle irait à l'épicerie cet après-midi, acheter des œufs et du lait dont elle n'avait bien sûr jamais vu la couleur, et il s'était contenté de hocher la tête. « Oui, ma chérie. Très bien, ma chérie. Mais son mot ne révélait pas l'ombre d'une inquiétude, la preuve qu'il ne s'était pas rappelé ce qu'elle lui avait dit. Mais à quoi s'attendait-elle aussi? Avec David, ça entrait par une oreille et ça ressortait par l'autre. Bienvenue dans le monde des génies. Elle retourna le papier, prit un stylo dans le mug où ils étaient rangés, hésita, puis écrivit. « David, il s'est passé quelque chose et je dois partir quelque temps. Au moins 2 jours, peut-être même 3 ou 4. Ne t'inquiète surtout pas pour moi et n'en parle à personne, surtout pas à la police. » Une histoire de chat errant. Est-ce qu'il y comprendrait quelque chose? Elle pensait que oui, s'il se rappelait leur première rencontre. À la SPA de Santa Monica, au milieu des chenilles, à l'arrière, la naissance de l'amour sur fond de jappement et d'aboiement. Ça lui rappelait James Joyce, bon Dieu. Il avait amené un chien errant qu'il avait trouvé dans une rue de banlieue, près de l'appartement où il séjournait avec une demi-douzaine d'amis intello. Elle cherchait un chaton pour pimenter un peu sa vie, n'ayant pour résumé aucun ami. À l'époque, il avait encore tous ses cheveux. Elle trouvait les femmes qui se l'éteignaient plutôt amusantes. Le temps était un voleur, et une des premières choses qu'il vous volait, c'est votre sens de l'humour. Elle hésita, puis ajouta « Je t'aime. Ris. » Était-ce toujours vrai? Eh bien, mieux valait le laisser de toute façon. C'était sale de raturer ce qu'on avait écrit. Elle remit le papier sur le réfrigérateur avec le même vieil aimant pour le tenir en place. Elle prit les clés de la Mercedes dans le petit panier près de la porte, puis se souvint de la barque, toujours amarrée au bout du petit ponton derrière l'épicerie. Elle serait très bien là-bas. Puis elle pensa à autre chose, à une chose que lui avait dite le garçon. « Il ne sait pas ce que c'est que l'argent. » Elle se rendit dans l'office, où il gardait toujours un rouleau de billets de 50. Il y avait des coins dans ce bled où elle aurait juré qu'il n'avait même jamais entendu parler de la Mastercard, et en prit 3. Elle s'éloigna, haussa les épaules, puis revint prendre les 3 autres. « Pourquoi pas, après tout ?» Aujourd'hui, elle vivait dangereusement. En sortant, elle s'arrêta de nouveau pour considérer le mot qu'elle avait laissé. Et pour une raison qu'elle était incapable de s'expliquer, elle retira l'aimant Positronix et le remplaça par un quartier d'orange. Puis elle sortit. Peu importait l'avenir. Pour l'instant, elle avait largement de quoi s'occuper avec le présent. 9. Le bucat d'urgence était reparti, emmenant l'écrivain vers l'hôpital ou l'infirmerie la plus proche, supposait Roland. Les officiers de paix étaient arrivés au moment même où l'engin partait, et ils passèrent environ 1 demi-heure à parler avec Brian Smith. Le pistolero entendait leurs palabres de là où il était, juste derrière la première côte. Les questions des dos bleus étaient claires et posées, les réponses de Smith de vagues marmonnements. Roland ne vit aucune raison d'interrompre sa tâche. Si les Bleus venaient par ici et le voyaient, il s'occuperait d'eux. Il se contenterait de les neutraliser, sauf s'ils lui rendaient la vie impossible. Les dieux savaient qu'il y avait eu assez de tueries comme ça. Mais quoi qu'il en soit, il enterrerait ses morts. Il enterrerait ses morts. Dans la clairière, la ravissante brume vert et or s'intensifia. Les moustiques le trouvèrent, mais Roland ne prit pas la peine de s'interrompre pour les écarter, qu'ils boivent tous leurs sous et s'en aillent piquer ailleurs, chargés de leur cargaison de sang. Tandis qu'il terminait de creuser la tombe à la main, il entendit des moteurs démarrer, le ronron doux de 2 voitures et le grondement plus irrégulier du camiobile de Smith. Il n'avait entendu la voix que de 2 officiers de paix, ce qui signifiait qu'à moins qu'il y ait eu un 3e dos bleu qui n'avait rien à dire, ils avaient permis à Smith de repartir sans encombre. Roland trouva la chose plutôt étrange. Mais, tout comme de savoir si King était paralysé ou pas, il n'en avait cure. Tout ce qui importait, c'était ce qu'il était en train de faire, tout ce qui importait pour lui, c'était de prendre soin des siens. Il fit 3 allers-retours pour ramasser des pierres, parce qu'une tombe creusée à la main était forcément creuse, et que, même dans un monde aussi policé que celui-là, les animaux avaient toujours faim. Il entassa les pierres à la tête du trou, cicatrice doublée de terre si riche qu'elle ressemblait à du satin noir. Otte était allongé près de la tête de Jake, à regarder le pistolero aller et venir, sans un mot. Il avait toujours été différent de ceux de son espèce, de ceux qu'étaient devenus ses semblables depuis que le monde avait changé. Roland avait même été jusqu'à supposer que c'était ses bavardages incessants qui avaient coûté à Otte sa place dans le tête. Il s'en était fait exclure sans ménagement, d'ailleurs. Quand ils avaient croisé ce bonhomme pour la première fois, pas très loin de la ville de River Crossing, il était squelettique, avec une morsure à moitié cicatrisée sur le flanc. Le bafouilleux avait tout de suite aimé Jake. Aussi clair que la terre veut le jour, comme aurait dit Cort, ou le père de Roland d'ailleurs. Et c'est à Jake que le bafouilleux avait le plus parlé. Roland se disait presque qu'Otte deviendrait peut-être complètement muet maintenant que le garçon était mort. Et cette pensée lui rappela cruellement tout ce qui était perdu. Il se remémora le garçon, debout devant les habitants de Calabrin Sturgis à la lueur des flambeaux, avec son visage jeune et beau, comme s'il était éternel.
« Je m'appelle Jake Chambers, fils d'Elmer, de la lignée d'Eld, du Catet de 99 »,
avait-il dit. Et oh, si fait, voilà qu'il y était en 99, avec sa tombe fraîchement creusée, qui l'attendait. Roland se remit à sangloter. Il s'enfouit le visage dans les mains et se mit à se balancer d'avant en arrière, en appui sur les genoux, dans le parfum sucré de la sève de pin, regrettant amèrement de n'avoir pu s'affranchir du cas avant que ce vieux démon plein de patience lui ait enseigné le prix véritable de sa quête. Il aurait tout donné pour changer le cours de ce qui s'était produit, tout, pour refermer ce trou sans rien à l'intérieur. Mais il se trouvait à présent dans le monde dans lequel le temps était à sens unique. 10. Lorsqu'il eut repris ses esprits, il enroula Jake avec précaution dans la bâche bleue, arrangeant une sorte de capuche autour du visage pâle et immobile de l'enfant. Il recouvrirait ce visage pour de bon au moment de refermer la tombe, mais pas avant.
« Otte, demanda-t-il, tu veux dire au revoir ?»
Otte leva les yeux vers Roland. Et pendant un moment, le pistolero ne fut pas certain qu'il avait compris la question. Puis le bafouilleux tendit le cou et caressa une dernière fois le visage du garçon d'un coup de langue.
« Ak, Dieu, »
dit-il. « Jake, adieu ?» Ou bien « Jake, adieu ?» Ça revenait au même de toute façon. Le pistolero prit l'enfant dans ses bras. Comme il était léger, ce petit qui avait sauté du grenier à foin avec Benny Slightman, qui avait combattu les vampires avec le père Callahan. Étonnamment léger, comme si le poids de son corps s'était envolé avec sa vie. Et le déposa dans le trou. Un peu de terre tomba sur une de ses joues et Roland l'épousta. Après quoi il ferma de nouveau les yeux pour réfléchir. Puis, enfin, la voix entrecoupée de sanglots, il parla. Il savait que toute traduction dans la langue de ce monde serait maladroite, pourtant il fit de son mieux. Si l'homme-esprit de Jake rôdait dans les parages, c'était ce langage-là qu'il comprendrait.
Le temps file, le glaçonne,
La vie passe. Aussi entends ma prière. La naissance n'est rien que la mort commencée. Aussi entends ma prière. La mort est sans voix. Aussi entends ma voix.
Ces paroles s'envolaient dans la brume vert et or. Roland les laissa partir, puis attaqua la suite. Il parlait plus vite à présent.
Voici Jake, qui a servi son cas et son tête, je dis vrai. Que le regard miséricordieux de Smana soigne son cœur, je dis, je vous prie. Que les bras de Gan le soulèvent des ténèbres de cette terre, je dis, je vous prie. Entoure-le, Gan, de lumière. Remplis-le, Chloé, de force. S'il a soif, donne-lui de l'eau dans la clairière. S'il a faim, donne-lui à manger dans la clairière. Que sa vie sur cette terre et la douleur de sa mort ne soient qu'un rêve à son âme qui s'éveille, et que son regard tombe sur chaque vision d'enchantement. Qu'il retrouve les amis qu'il avait perdus, et que tous ceux dont il appelle le nom lui répondent en retour par le sien. Voici Jake, qui vécut une bonne vie, qui aima les siens, et qui mourut, comme en décida le cas. Tout homme te doit une mort. Voici Jake. Donne-lui la paix.
Il resta agenouillé quelques instants, les mains croisées entre les genoux, à penser qu'il n'avait pas compris le pouvoir réel du chagrin, ni la douleur du regret, jusqu'à cette seconde.
Je ne supporte pas de le laisser partir.
Mais une fois encore, ce cruel paradoxe, s'il ne le laissait pas partir, son sacrifice était vain. Roland ouvrit les yeux et dit
« Au revoir, Jake. Je t'aime, mon enfant. »
Puis il referma la capuche bleue sur le visage du garçon pour le protéger de la pluie qui allait venir.